Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Conseil de défense ce matin à l'Elysée au sujet du Groenland, à l'heure où l'intérêt des États-Unis pour le territoire ne cesse de grandir. Des militaires français et européens sont en chemin pour un exercice militaire sur place. Il sera aussi question de l'Iran où les intentions américaines sont toujours très floues. Ce matin, Donald Trump laisse planer le doute quant à une possible intervention militaire. Et le Maroc qui tient sa finale qualifiée hier soir devant son public à la CAN, vainqueur du Nigeria au tir au but, les Lions de l'Atlas affronteront le Sénégal dimanche.
Conseil de défense, 8h ce matin à l'Elysée.
Réunion en urgence présidée par Emmanuel Macron. Deux sujets sur la table. L'Iran, nous y reviendrons dans un instant, mais aussi le Groenland convoité par les États-Unis. Il est clair que Donald Trump a le désir de conquérir le territoire autonome danois, dit la chef de la diplomatie danoise à l'issue d'une réunion hier à Washington. Le président américain évoque lui des raisons de sécurité nationale. Ses intentions doivent être prises au sérieux, dit Sébastien Lecornu, raison pour laquelle plusieurs pays européens ont annoncé hier l'envoi de troupes sur place. Parmi eux, Alfred Orange, des Français déjà en chemin pour le Groenland.
Avec l'envoi de soldats, la France d'abord assure qu'une quinzaine de militaires français, membres d'unités de montagne, aguerris au climat froid, vont se joindre à cet exercice de reconnaissance qui comptera aussi des soldats suédois, allemands et norvégiens déployés dès aujourd'hui et jusqu'à samedi pour, je cite, « soutenir le Danemark dans la garantie de sécurité dans la région ». Paris appuie ce soutien en annonçant également l'ouverture le 6 février prochain d'un consulat français au Groenland. Depuis le début, Washington fait de cette conquête polaire un enjeu de sécurité nationale. Donald Trump se dit persuadé que ce territoire autonome danois est investi par la Chine et la Russie. Des accusations que le Danemark a vigoureusement démenties.
Le chef de l'État devrait en dire un peu plus sur cette mission aujourd'hui à Istres pour ses vœux aux armées à l'issue donc de ce conseil de défense qui aura aussi pour l'objet l'Iran avec la perspective d'une intervention militaire américaine qui semble s'éloigner. Ce matin, longtemps menaçant, Donald Trump entretient le flou sur ses intentions.
Des sources très importantes nous ont informés et elles ont dit que les tueries ont pris fin et que les exécutions de manifestants qui étaient prévues n'auraient finalement pas lieu. Eh bien, nous allons observer ça. J'espère que c'est vrai. On observera ça et on verra quelle est la suite.
La répression se poursuit dans le pays. Selon une ONG, plus de 3400 manifestants ont été tués depuis le début de la contestation. L'actualité ce matin, c'est aussi l'explosion des dépenses de l'assurance maladie en termes de remboursement de médicaments, avec un coût 27 milliards d'euros en 2024, en hausse de 5% sur 5 ans. Bilan de l'assurance maladie qui évalue à 41 le nombre de boîtes remboursées par an et par Français. Mais ce n'est pas forcément la consommation qui augmente, Victor Jonin, mais le coût de traitements innovants.
Oui, il y a 10 ans, un seul médicament dépassait un coût annuel de 100 000 euros par patient, alors qu'aujourd'hui, ils sont 21 médicaments dans ce cas. Deux dépassent même le million d'euros. Alors heureusement, l'assurance maladie négocie avec les laboratoires des remises importantes. Les montants sont confidentiels, mais les traitements innovants restent très onéreux. Or, ils sont vitaux pour des patients atteints de cancer, de problèmes cardiaques ou de maladies rares. Des patients de plus en plus nombreux avec le vieillissement de la population. Les plus âgés consomment 108 boîtes de médicaments par an en moyenne, et tout en haut du podium des molécules les plus prescrites, on retrouve sans surprise le paracétamol, le doliprane, 430 millions de boîtes remboursées par an, soit 13 boîtes par seconde.
Et on parle bien d'une augmentation de 20% sur 5 ans. Autre augmentation, celle du nombre de dossiers de surendettement, près de 10% de plus l'an dernier par rapport à 2024, nous dit la Banque de France, qui a dû engager des effectifs supplémentaires afin d'en assurer le traitement. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Émotion très vive à Mitry-Mory en Seine-et-Marne après le suicide d'une lycéenne, Camélia, 17 ans. Elle s'est donné la mort mardi après-midi en s'allongeant sur les rails du RER. Une enquête est ouverte et selon les premiers éléments, il apparaît que la jeune femme était victime de harcèlement scolaire. Amélie Courtet, une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein de son établissement qui a rouvert ses portes hier matin.
24 heures après le drame, les lycéens décrivent une reprise des cours pesante.
Beaucoup de personnes pleuraient dans les couloirs.
Une chaise vide, celle de Camélia, des professeurs absents.
Notre prof, elle sentait pas de faire cours.
Sentiment de culpabilité, de n'avoir rien vu, de ne pas avoir fait assez face au discours dégradant qui la visait.
On parle d'une fille qui est isolée, qui a des copines juste pour l'immobilité.
image, un peu bouche-trou. Hein. Ben, on lui dit que c'est une salope, on propage des rumeurs, elle flirte avec tel mec.
Des rumeurs qui courent depuis l'année dernière, raconte Laetitia, élève de terminale dans le même lycée à Mitry-Mory, même si elle la connaissait de loin.
C'est une fille qui est très souriante, très radieuse, c'est une belle fille.
Elle s'émeut de son suicide.
C'est plutôt de la colère que de la tristesse, vraiment de la colère.
Parce que tout le monde savait qu'elle était harcelée.
C'est comme une sorte d'omerta. Tout le monde sait, mais tout le monde se tait, les gens ont peur. Puis après, quand le moment arrive, il y a un peu de l'hypocrisie, on se met à pleurer, ou une sorte d'exagération.
Mais Camélia, elle, est sortie du silence. D'après beaucoup d'élèves, elle était allée chercher de l'aide auprès de la direction, sans aucune réaction. L'établissement avait pris en compte cette situation, rectifie de son côté le procureur de Meaux.
La suite des débats budgétaires pour l'année en cours à l'Assemblée nationale, les députés qui ont rejeté hier deux motions de censure, RN et LFI, contre la signature de l'accord avec les pays du Mercosur, prévu samedi au Paraguay, c'est l'une des raisons de la colère agricole. Hier, une cinquantaine d'agriculteurs, membres de la Confédération paysanne, ont été interpellés, placés en garde à vue pour avoir occupé à Paris une annexe du ministère de l'Agriculture. Hier soir, des tracteurs se sont rassemblés dans le centre de Dijon. D'autres actions sont prévues ce matin aux portes de Dunkerque ou encore du côté de Lyon.
Et puis on connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Duel entre Lyon, ceux de la Teranga, ceux de l'Atlas, le Sénégal, tombeur de l'Égypte, 1-0, affrontera le Maroc, pays hôte de la compétition, qualifié au tir au but hier soir face au Nigeria. Une troisième finale, la première depuis plus de 25 ans pour le Maroc, célébrée par la communauté marocaine en France, de Paris à Marseille. Tour d'horizon avec Antoine Guillet.
Le parc des sports de Saint-Denis exulte. Youssef El Nesseri vient de marquer le tir au but de la qualification en finale. La libération pour les plus de 200 supporters marocains présents dans la fan zone. Ils tiennent enfin une finale, qui plus est chez eux au Maroc.
Moi, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est incroyable. C'est un moment magique.
J'avoue que je suis à deux doigts de prendre un billet pour y aller parce que j'espère qu'ils vont gagner et je pense quand même qu'il y aura du spectacle en finale.
Même scène de liesse à Marseille où les fumigènes rouges éclairent le vieux port. Les regards sont déjà tournés vers le Sénégal.
On va la gagner. 3-0 pour le Maroc. Facile.
Je vois également une chance de pénalty. Mais bon, on va vouloir gagner dans le temps réglementaire.
Rendez-vous est pris face au Sénégal, champion d'Afrique 2022. Au Maroc, comme en France, les supporters attendent désormais un deuxième titre, le premier depuis 1976.
Et cette finale Maroc-Sénégal sera à vivre sur RMC en direct dimanche soir 20h. Et puis c'est aux alentours de 9h40 ce matin que les quatre astronautes de la Station Spatiale Internationale sont attendus au large de la Californie. Retour sur Terre anticipé en raison d'un problème de santé qui affecte l'un des membres de l'équipage. Situation inédite qui pourrait avoir des conséquences sur la prochaine mission prévue en février, qui pourrait partir plus tôt que prévu, avec à son bord la Française Sophie Adenau.
Et à suivre donc, puisqu'ils sont en route pour retrouver la terre ferme. C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. On parle surendettement ce matin et vous êtes nombreux à témoigner. Plus 10% de dossiers de surendettement l'an dernier, Mathieu.
Oui, et la Banque de France qui recrute même des personnels pour traiter ces dossiers de surendettement, 10%, c'était à peu près le même chiffre l'année précédente. Énormément de témoignages, beaucoup de remerciements aussi des agents de la Banque de France qui ont aidé certains de nos auditeurs à sortir d'un dossier de surendettement. Je voulais vous lire, Frédéric, je suis encore dans un dossier après m'être fait pirater mon compte bancaire à hauteur de 11 000 euros, nous dit Frédéric. Depuis fin 2023, je suis dans une situation où j'ai 1290 euros de France Travail. Rien de plus, les dossiers de surendettement. Nos auditeurs témoignent aussi de la difficulté que c'est que cette épreuve, pendant plusieurs années, d'être limité, de ne pas pouvoir dépenser, évidemment.
Limité, accompagné, mais c'est aussi ce qui a permis à certains de s'en sortir dans le même temps, alors que ces dossiers explosent. Il y a aussi une augmentation des frais bancaires. Dominique, vous nous appelez au 3216 de Limoges. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Apolline.
Les frais bancaires, on apprend qu'ils vont augmenter de 3% en moyenne cette année. Vous faites comment, vous ?
En fait, j'ai toujours une banque classique, physique. J'ai quitté cette banque, ce que j'appelle le crédit l'abricole, pour une banque en ligne avec Boursorama.
Ouais.
Qui jusqu'alors était vraiment très bien, qui me permettait d'avoir une carte bancaire haut de gamme pour rien.
Ouais,
pour rien du tout, et avec un service très sérieusement de grande qualité, disponibilité au téléphone, etc., possibilité de changer les plafonds, aujourd'hui, le constat est complètement catastrophique, puisque j'arrive plus à les joindre au téléphone, Très compliqué pour les joindre tout court. Donc j'envisage de quitter. Le seul problème, c'est que...
De repartir vers la banque classique traditionnelle ?
Ben, je ne sais pas en fait, parce que ma banque classique, elle s'est pas arrangée depuis que je l'ai quittée. Je l'ai gardée, en fait, j'utilisais...
Oui, vous avez gardé un peu en dormant.
De la banque classique, et puis tout ce qui était consommation, paiement par carte, par la banque en ligne. Moi, je veux bien payer des frais, mais je veux payer des frais avec des vrais services, pas pour payer des frais.
En fait, ce qui est étonnant dans votre histoire, Dominique, c'est que quand vous êtes arrivé, en gros, elle vous a fait les yeux doux, quoi, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'au début, la banque en ligne, c'était le paradis, quoi. Et puis ensuite, petit à petit, après que vous vous soyez bien installé dans le service de la banque en ligne, ils vous ont lâché.
Ah ouais, mais là, c'est une catastrophe. Mais c'est très dingue. Sérieusement, vraiment une catastrophe. Bon, par facilité, j'y suis encore parce que bon, bah voilà, j'ai pas de besoin particulier non plus. Mais très sincèrement, c'est inadmissible.
Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est un peu, il y a les sirènes de la banque en ligne, quoi.
Oui, mais après, on pouvait aussi se poser la question comment une banque en ligne peut gagner, peut fonctionner sans percevoir aucune rémunération à ce niveau-là. Bon, en plus, moi, j'ai la chance de pas avoir de problème de défaut de paiement ou de choses comme ça. Donc, d'Agio, je connais pas. Donc, c'est pratique. Voilà.
Ça a roulé, c'est pratique. Mais à un moment, effectivement, vous vous êtes rendu compte que ça ne suivait pas. Merci pour votre témoignage, Dominique. Comme Dominique, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 3216, les frais bancaires qui augmentent. Et en même temps, effectivement, ces dossiers de surendettement, plus 10% l'an dernier. On y reviendra à 7h40 avec tous nos conseils. 7h12, évitez de nouveaux drames comme le meurtre de Lola ou de Philippine, tué par des étrangers sous OQTF. C'est l'objet de votre proposition de loi. Charles Rodwell, bonjour.
Merci pour votre invitation.
Vous êtes député macroniste des Yvelines. Il faut mettre hors d'état de nuire les criminels et les délinquants étrangers. Voilà votre parti pris et vous le défendez dans un instant sur RMC. 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il faut garder, je cite, les criminels et délinquants étrangers en rétention jusqu'à leur expulsion. Voilà votre parti pris ce matin, Charles Rodwell. Merci d'être dans ce studio.
Merci à vous.
Député macroniste des Yvelines, vous avez déposé une proposition de loi qui sera débattue début février. C'est quoi le point de départ? C'est de se dire qu'il y a le meurtre de Philippine, notamment, emblématique et terrible meurtre, étudiante à l'Université Paris-Dauphine, retrouvée dans le bois de Boulogne, tuée par un homme qui était sous OQTF, qui aurait dû quitter le territoire. Est-ce que ça, pour vous, c'est ce que vous espérez pouvoir éviter?
On ne va pas répondre à toutes les situations, évidemment, mais tout l'engagement qu'on a pris... auprès des familles comme celle de Philippine, comme celle de Lola, comme celle des victimes de l'attaque à Mulhouse, avec Michel Barnier, avec qui je dépose ce texte, avec Bruno Retailleau, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque où on a préparé ce texte, avec Gabriel Attal, avec qui je porte ce texte également au nom de mon groupe, c'est de contribuer à ce que ces situations cessent et que ces attentats, ces attaques cessent contre les familles françaises. Notamment dans deux cas. Un, des personnes qui devraient être retenues en centre de rétention avant qu'elles soient expulsées. C'est la raison pour laquelle on propose d'allonger la durée de rétention administrative pour des criminels et pour des délinquants étrangers. Je rappelle que ceux qui sont retenus aujourd'hui dans ces centres de rétention en France, ce sont déjà des gens dangereux. Il n'y a que des gens dangereux dans ces centres de rétention. Donc c'est allonger la durée de rétention. Et la deuxième des choses, c'est de contribuer à traiter un trou dans la raquette qu'il existe dans la chaîne pénale française depuis trop longtemps. C'est la question des troubles psychiatriques. On a trop entendu, à la suite de certaines attaques, que l'assaillant était atteint de troubles psychiatriques graves. Et donc on veut, par cette proposition-là, contribuer à prévenir ce type de passage à l'acte.
Alors, précisément, sur la première partie d'abord, ce que vous pointez du doigt, et en effet, la personne qui a tué Philippine avait fait de la prison, avait déjà été condamnée, aurait dû, en quelque sorte, enchaîner, à vos yeux, prison... expulsion. Pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que votre proposition de loi passerait, là où les mesures qui avaient été proposées par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, de rallonger les durées de rétention, avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel? Pourquoi vous, ça passerait?
Moi, je trouve qu'il est trop facile de taper sur le juge. Et que les hommes et femmes politiques doivent aussi prendre une forme de responsabilité qui est celle de bien écrire la loi. Quand le Conseil constitutionnel a censuré la première version de cette loi, il a jugé de manière assez légitime d'ailleurs, qu'une partie de cette loi était mal écrite. Ce qui me permet d'ailleurs de rendre hommage à Olivier Marleix, qui était l'un des parlementaires qui est décédé cette année, qui portait cette proposition de loi avec Michel Barnier et avec d'autres. Donc on a réécrit une partie de cette loi sur un principe simple. On est absolument convaincu que ça va passer. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé main dans la main avec des magistrats, avec des constitutionnalistes, avec des juges, avec le Conseil d'État qui nous a donné un avis favorable. L'objectif est simple, pour les criminels graves, pour les personnes suspectées ou avérées d'actes terroristes, on va pouvoir les retenir plus longtemps, 180 à 210 jours, avant d'assurer leur expulsion vers leur pays d'origine.
Ce qui est d'ailleurs la moyenne, par exemple, de la durée de rétention en Allemagne, par exemple, qui autorise trois fois plus de temps en espace de rétention. Mais il y a aussi cet aspect sur la psychiatrie.
Absolument.
Qu'est-ce que vous faites ? Je veux dire, il n'y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques en France. Donc, qu'est-ce que vous faites ?
Un exemple concret. Aujourd'hui, quelqu'un qui est atteint d'un trouble psychiatrique grave, quelqu'un qui est factuellement fou et qui menace de passer à l'acte sur les réseaux sociaux, dans la rue, s'il refuse un soin ou un examen psychiatrique, aujourd'hui, on n'est pas obligé de lui faire passer un examen psychiatrique. Dans notre loi, concrètement, quand il cumule les deux choses, un, il menace de passer à l'acte très concrètement, deux, il a l'air fou, il est atteint de troubles psychiatriques graves, le préfet peut dire, ok, celui-là, il doit passer un examen, et si c'est avéré qu'il est atteint de troubles psychiatriques, il est interné. Deuxième des choses, aujourd'hui, par exemple, pour les pédocriminels, quand il atteint le bout de sa peine, à partir de 15 ans de prison, si on se rend compte qu'il est toujours malade, donc s'il sort de prison et que, au bout de quelques jours, il repasse à l'acte, on a le droit de prononcer une peine, ce qu'on appelle une rétention de sûreté. Donc de prolonger sa peine de quelques mois, le temps qu'il repasse devant le juge ou le temps qu'il finisse de traiter son problème psychiatrique. Ça, c'est la loi qui existe pour les pédocriminels. On veut élargir la loi pour les personnes qui sont coupables d'actes terroristes ou d'actes criminels graves, afin que ces personnes puissent rester en prison le temps de finir de traiter leurs soins et de repasser devant le juge, plutôt simplement que de les relâcher, afin qu'ils repassent à l'acte
et de prendre le risque d'un passage
pour attaquer des familles françaises.
Merci Charles Rodouel, donc député Ensemble pour la République des Yvelines.
Merci à vous.
Vous avez donc déposé ce projet de loi et vous espérez qu'il soit débattu et adopté à partir de début février. Est 7h21 sur RMC. Laurent Neumann est notre historien du matin. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Laurent, on va remonter l'histoire avec vous ce matin. Donald Trump a redit hier sa volonté de s'approprier le Groenland. Pour vous Laurent, la méthode en réalité n'est pas si surprenante.
Non, la Louisiane, la Floride, tout le nord du Mexique, l'Alaska, tous ces territoires ont été achetés par les États-Unis dans l'histoire. Trump veut juste faire pareil avec le Groenland.
Vous remontez le temps dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes, 7h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22, quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Laurent Neumann. Laurent, Emmanuel Macron convoque ce matin en urgence un conseil de défense. En discussion, la volonté de Donald Trump de s'emparer du Groenland, je cite, par la méthode douce ou par la méthode forte. Ça, ce sont ses mots. Ça veut dire quoi ?
La manière forte, tout le monde a compris, c'est le recours à la force armée. Sauf que le Groenland est un territoire autonome sous administration du Danemark, lui-même membre de l'OTAN. Et ce serait donc une première qu'un pays de l'OTAN attaque un autre pays de l'OTAN. Ça signifierait sans doute la mort du traité de l'Atlantique Nord. C'est donc plutôt, de mon point de vue, une menace pour inciter les Européens à accepter la méthode douce.
La méthode douce, c'est quoi ?
C'est le deal, c'est la négo pour Donald Trump, tout à un prix. Et ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Au 19e siècle, les Américains préfèrent déjà l'expansion par l'argent plutôt que par la conquête, un chèque plutôt que la guerre. Et les États-Unis ont acheté plus de 40% de leur territoire actuel. La Louisiane, en 1803, achetée à la France pour 15 millions de dollars. La Floride, en 1819, achetée à l'Espagne. Entre 1848 et 1853, ils ont acheté tout le nord du Mexique, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à l'Utah, la Californie, le Nevada, où il y a Las Vegas, tout le Nouveau-Mexique, et sans oublier évidemment l'Alaska en 1867, acheté à la Russie pour un peu plus de 7 millions de dollars, c'est-à-dire grosso modo 160 millions de dollars d'aujourd'hui.
Ah oui, effectivement, l'Alaska, mais pas le Groenland d'ailleurs. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Groenland à cette époque-là ?
En fait, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Les stratèges américains considéraient que s'ils avaient le contrôle de l'Alaska à l'ouest et le contrôle du Groenland à l'est, ça pouvait faire pression sur le Canada. Parce qu'ils voulaient aussi acquérir le Canada, qui était à l'époque sous protection britannique. Sauf que les Américains, ils étaient soucieux de leur image. Ils ne voulaient pas qu'on dise qu'ils colonisaient, comme pouvaient le faire les Européens. Ils préféraient dire qu'ils libéraient du territoire. Sauf qu'au moment où ils achètent l'Alaska, bah, le Canada trouve sa liberté, les Anglais leur donnent leur autonomie, bah, du coup, on peut plus acheter le Canada. Puisqu'ils sont libres, on peut plus les libérer. Donc, du coup, ça sert plus à rien d'acheter le Groenland.
Mais enfin, tout ça était un peu hypocrite, non?
Alors, hypocrite et cynique. On a oublié, mais avant d'acquérir tout ce que je vous disais là au nord du Mexique, bah, en fait, le président américain James Polk, il a provoqué une guerre contre le Mexique, une guerre totalement immorale. Mais du coup, à la fin de la guerre, bah, histoire de se racheter une conscience, les États-Unis ont dit, on va payer les Mexicains, qui évidemment n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter, et vous aurez compris, j'ai peut-être même pas besoin de vous le dire, qu'à chaque fois que les États-Unis ont acheté un territoire, on s'est jamais demandé si les habitants étaient d'accord.
Merci Laurent d'avoir remonté le temps, effectivement, sur l'histoire des territoires américains. C'est l'heure de retrouver Arnaud Demange.
RMC. Demange Pirate, le face-à-face.
7h25, Arnaud Demange, je reçois à 8h30 tout à l'heure le politologue Gilles Kepel.
Oui, Gilles Kepel, spécialiste du bordel au Moyen-Orient, il est donc bordélologue, également titulaire d'un doctorat en merdier géostratégique en Asie du Sud-Est, voilà. Et auteur du Kama Sutra de la guerre, domination des adversaires, comment les pays se font défoncer autour du monde,
non,
aux éditions de l'Apocalypse. Et alors toujours très précis dans ses analyses, c'est à la virgule près. C'est pour ça qu'il s'appelle Gilles Kepel. Pour résumer la situation, je reçois le professeur Kepel, ZBEUL, Zbeul. C'est le Zbeul dans le monde. On reviendra sur la situation en Iran, où des millions de musulmans sont oppressés. Et alors là, curieusement, on n'entend pas les insoumis, ou quasiment pas. Quand des musulmans sont oppressés par d'autres musulmans, on les entend jamais. Faut faire revenir Mathilde Panot. Mathilde Panot, bonjour. Le régime islamique iranien oppresse sa population. C'est islamophobe de dire ça, madame. Non, ce sont des musulmans qui protestent. Ces musulmans qui protestent contre le régime islamique sont des musulmans islamophobes. Je pense même que ce sont des musulmans juifs. Ce sont des musulmans, madame. Et ça barde aussi du côté du Groenland. Là aussi, silence radio chez les insoumis. On n'a pas eu la flottille pour le Groenland. Ils n'ont pas fait ça. En même temps, il fait froid, hein. Et puis trouver un yacht pour la Méditerranée, c'est cool, mais va dénicher un brise-glace d'occasion pour se balader au milieu des icebergs. En plus, iceberg, ça sonne un peu juif comme ça. Bref, les ambassadeurs du Danemark et du Groenland étaient reçus hier à la Maison Blanche pour essayer de convaincre Donald Trump de ne pas les envahir.
Voilà.
Donc ils ont dit, Monsieur Trump, non, ne venez pas, ça sert à rien. Chez nous, la majorité sexuelle est à 75 ans, ça va pas vous intéresser. C'est faux, vous mentez, méchant Danois, oh, bad Danois, very bad Danois. Oui, bon, en tout cas, elle est à 18 ans, ça va pas vous intéresser non plus, ça. Oh, merde, j'ai horreur des vieilles. C'est courageux, hein, d'aller là-bas pour s'opposer à Donald Trump, parce qu'ils sont pas sûrs de revenir, les gars. Ils vont se retrouver dans la même cellule que Maduro. T'as pris combien? Moi, j'ai pris perpète. Qu'est-ce que tu lis? Le journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy. C'est sur les conditions de détention en France, c'est terrible, j'avais pas autant pleuré depuis le journal d'Anne Frank. Et enfin, Emmanuel Macron a annoncé le début de déploiement de forces françaises au Groenland. Vous avez vu combien?
Ouais, j'ai vu, c'est horrible.
15 soldats. 15.
On y va, les gars.
Il y a aussi 15. 13 Allemands. On rigole, mais ça a fait instantanément doubler la population du Groenland. Tremble Trump. Rendez-vous avec Gilles Kepel, 8h30.
Merci Arnaud, on vous retrouve avant. Vous serez avec nous en direct à 8h20. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et tiens, ne manquez pas notre voix de gauche ce matin. Elle réagit à la voix de droite d'hier, Louis Sarkozy, hier sur la question du halal. Vous entendrez la réponse de gauche de Cécile Duflo. Il est 7h28, à tout de suite. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Les Français en situation de surendettement sont de plus en plus nombreux. Comme en 2024, le nombre de dossiers déposés a bondi d'environ 10%. De quoi alarmer la Banque de France. Donald Trump temporise sur l'Iran qui sera avec le Groenland au menu du Conseil de défense d'urgence convoqué ce matin par Emmanuel Macron. Et puis une vingtaine de soignants ont débrayé hier au CHU de Rennes pour dénoncer leurs conditions de travail face à l'afflux de patients.
De plus en plus de Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Au point parfois de se noyer. Pour la deuxième année consécutive, les dossiers de surendettement explosent. Une hausse de près de 10% encore l'an dernier qui a obligé la Banque de France à renforcer ses effectifs pour pouvoir tous les traiter. Car derrière ces dossiers se cachent des situations aussi difficiles qu'urgentes, Marion Gauthier.
C'est la retraite qui lui a cassé la figure, dit Pascal. En 2024, l'ancien ouvrier voit ses revenus divisés par deux. Il est atteint d'un cancer. Il n'arrive plus à payer le crédit pour sa maison.
C'est sûr que c'est angoissant. Au début, il faut voir, il y a l'aide de relance. Il y a les impôts, il y a le DEF, il y a l'eau. Plus, je paye 145 du mutuel par mois. Quand j'arrive le 15 du mois, eh ben, j'ai plus rien. Je peux plus faire de courses, plus rien. C'est pour ça que j'ai mis ma maison en vente. Moi, actuellement, je me sens, je suis sali.
Un sentiment de honte partagé par les personnes surendettées, souvent de la classe moyenne, souligne l'association Crésus.
Début octobre 2025, toutes les associations m'ont dit avoir accompagné plus de personnes que sur l'année 2024 complète.
Pauline Dujardin est la coordinatrice de la fédération.
Parce que la situation économique et politique actuelle, elle est compliquée. On a pas mal de contrats précaires qui sont restés précaires. Il n'y a pas eu beaucoup d'embauches, donc c'est ce qui peut expliquer un petit peu cette augmentation.
Elle craint que le nombre de dossiers de surendettement continue d'augmenter dans les mois à venir.
Et je vous attends au 32-16. Appelez-nous pour nous dire si, comme Pascal que vous venez d'entendre dans le sujet de Marion Gauthier, si comme Pascal vous avez été confronté à la question du surendettement. Et ne manquez pas, juste après le journal d'Élise, les conseils du président de Moneyvox.
Il est 7h34 et dans moins d'une demi-heure maintenant, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense convoqué en urgence hier soir avec deux sujets à l'ordre du jour. Le Groenland qui fait face à l'appétit américain et où la France va envoyer des hommes pour un exercice militaire européen, et l'Iran, secoué depuis deux semaines et demie par des manifestations violemment réprimées. Deux dossiers qui ont pour dénominateur commun les États-Unis de Donald Trump. Et sur l'Iran, le président américain semble temporiser depuis hier soir, Antoine Hollard.
Écoutez, Trump a clairement changé de ton. Ces derniers jours, il était très menaçant. Il promettait d'intervenir, souvenez-vous, de façon très forte si le régime tue des manifestants. Et puis hier, il explique finalement que les tueries sont terminées et que les exécutions des opposants n'auront pas lieu. Une façon, au fond, de dire que le régime iranien n'a pas franchi de ligne rouge. Cette déclaration surprend. On a l'impression que Trump se dégonfle comme s'il cherchait un prétexte, une excuse pour ne pas intervenir et s'en justifier. Alors attention, tout cela n'est peut-être aussi qu'un coup de bluff. Le président américain a peut-être déjà pris la décision de lancer des frappes et il chercherait désormais à brouiller les pistes pour prendre les mollahs par surprise lorsqu'il passera à l'action. C'est peut-être aussi une façon de gagner du temps et de mieux préparer l'opération. On a notamment appris hier que le Pentagone a ordonné le déploiement d'un porte-avions au Moyen-Orient. Il est en route et sera sur place d'ici environ une semaine.
Antoine Hollard, correspondant d'RMC à Washington. En France, les services d'urgence sont sous très haute tension. Une trentaine d'hôpitaux ont activé le plan blanc pour faire face à l'afflux de patients causé à la fois par l'épidémie de grippe, mais aussi par la grève des médecins libéraux. Et ça ne suffit pas. À Rennes, le personnel s'est mobilisé hier pour dénoncer ses conditions de travail après le récent décès de deux patients sur des brancards. Reportage sur place de Martin Lange.
Assis devant les urgences, ils sont une vingtaine de soignants mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail toujours plus difficiles. Phénomène des têtes soignantes.
On n'y arrive plus, quoi. On est épuisé. Il y a des brancards partout. On double les chambres et on met plein de brancards dans les couloirs. Et reste de plus en plus longtemps. Avant, on disait ouais, 10 heures, 12 heures. Bah, maintenant, c'est 24, 48 heures. Bah oui. On veut des conditions humaines. C'est tout ce qu'on demande.
Entre la grippe et la grève des généralistes, les chiffres explosent. Près de 250 visites par jour dans un service dimensionné pour 150. Olivier, infirmier.
On a un afflux de patients qui est tellement massif que ça nous déborde, quoi. On se dit toujours qu'on a touché le fond, mais non, on arrive toujours à descendre. Donc notre cœur de métier, c'est l'humain. Et là, on fait de l'abattage. Hein. C'est compliqué d'être satisfait de rentrer le soir en se disant j'ai bien bossé, quoi.
Le week-end dernier, deux patients sont décédés dans le service dans des conditions indignes, selon Nathalie Loinsard, infirmière et déléguée CGT.
Mais un patient qui arrive aux urgences, qui est en soins palliatifs, il a droit aussi de mourir dignement dans une chambre d'hôpital, dans un lit entouré de sa famille. Et là, ça n'a pas été le cas.
Ces deux décès n'ont aucun lien avec la situation de tension, indique la direction de l'hôpital qui assure avoir pris des mesures exceptionnelles, ouverture de 40 lits supplémentaires et rappel de personnel.
7h36 sur RMC, il y avait du monde, beaucoup de monde hier à l'église de la Madeleine à Paris.
Pour la messe à Roland, en l'honneur de Roland Courbis, coach Roland qui s'est éteint lundi matin à l'âge de 72 ans. Et vous l'avez constaté, Morgane Maury, de ses amis les plus proches, à ceux qui l'ont côtoyé au cours de sa vie, tous ont voulu lui rendre un hommage appuyé.
Un ballon d'or, Zinedine Zidane, l'acteur Jamel Debbouze, des champions du monde de foot, le monde du showbiz, de la politique et du ballon rond. Roland Courbis a rassemblé tous ses milieux hier à l'église de la Madeleine pour une messe hommage. Zinedine Zidane.
Monsieur, c'est quelqu'un qui a compté pour moi et je suis là pour lui tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une triste nouvelle.
Devant un portrait de lui sur le banc de l'Olympique de Marseille et un maillot de son époque monégasque, ses enfants ont d'abord pris la parole, puis sa compagne. Elle a montré ce téléphone dont il ne se séparait jamais, qu'il décrochait pour faire des cadeaux. Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football.
C'est une des grandes figures de notre football et qui a été un des grands passionnés, des grandes figures de notre football sur ces dernières décennies.
Une cérémonie pleine de chansons pour coach Courbis, ce fan de Johnny, retient la nuit à résonner dans la Madeleine avant que Marc Lavoine ne chante la chanson préférée de Roland Courbis, cet extra de Léo Ferré.
Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit.
Des applaudissements ont accompagné la sortie du cercueil. Samedi après-midi, une autre messe aura lieu à Marseille, sa ville natale.
Et je peux vous dire que c'était magnifique. C'était vraiment un hommage extrêmement puissant, poignant, avec effectivement tous ces témoignages de la générosité hors norme de notre cher Roland. Et toute la famille RMC était représentée, bien sûr, on y était.
Et c'est sûrement un match qu'il aurait aimé décrypter et analyser. Le Maroc a décroché hier son ticket pour la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria in extremis au tir au but. 22 ans après leur dernière finale, les Lions de l'Atlas font face au Sénégal dimanche à 20h. Un match à vivre sur RMC.
Le Quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici notre prono du jour. Le favori, c'est le numéro 6, Tur LA. L'outsider, c'est le 13, Chestnut.
C'était le journal des Lise d'Angers, 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
De plus en plus de Français qui ne s'en sortent plus financièrement. Le nombre de surendettements, de dossiers de surendettement, a bondi de 10% l'an dernier. Ce sont les chiffres de la Banque de France. Bonjour Maxime Chipoy. Merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous êtes le président de Moneyvox. C'est ce site d'information spécialisé sur les questions d'argent. Et on va avoir besoin de beaucoup de conseils. On a de nombreux témoignages depuis ce matin de cette spirale, avec en plus une autre difficulté qui est que dans le même temps, les frais bancaires augmentent. Comment s'en sortir? Tous vos conseils dans un instant. Et vous, vos témoignages au 32-16. David sera avec nous dans un instant. David qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Mais vous avez aussi entendu le témoignage notamment de Pascal. Je vous attends au 32-16, 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à tous, il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC la radio, sur RMC Story, la télé, Canal 23. Notre pouvoir d'achat est de plus en plus sous pression. Le nombre de dossiers de surendettement a bondi de 10% en 2025 et il avait déjà explosé l'année d'avant. Bonjour Maxime Chipoy.
Bonjour.
On a besoin de vos conseils ce matin. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président de Moneyvox, le site d'information spécialisé sur les questions d'argent. C'est un indicateur inquiétant, ces explosions de nombre de dossiers de surendettement?
Alors ça peut être interprété de plusieurs manières. Le dépôt de dossiers de surendettement, c'est déjà une démarche positive, puisque ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a des problèmes et qu'on est dans une démarche pour les résoudre. Le plus inquiétant, c'est vraiment de faire l'autruche et d'attendre que la situation se dégrade jusqu'au moment où vraiment on n'en peut plus, parce que là, la situation va être beaucoup plus difficile à résoudre. Donc c'est un indicateur qui fait évidemment pas plaisir, mais ça peut être la manière aussi de traiter le problème.
Ça permet de s'en sortir. Comment on tombe dans le surendettement? On a eu plusieurs témoignages depuis ce matin d'accidents de parcours, d'arnaques parfois, qui ont conduit tout d'un coup à dégringoler.
Effectivement, le cas le plus classique, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi avec sa carte bancaire, c'est une situation qui est fragile, quelqu'un qui a des moyens qui sont limités, qui a quand même des contraintes d'énergie, de logement, etc., et qui peut connaître un accident de la vie, un divorce, un décès dans sa famille, ou la perte de son emploi, et dans ce cas-là, le budget est complètement déstabilisé, et c'est là qu'on rentre dans cette spirale.
Dans cette spirale, David, vous l'avez connu, cette spirale, vous nous appelez du Puy-de-Dôme, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Ouais.
David, racontez-nous ce qui s'est passé pour vous.
Moi, en fait, j'étais victime d'une escroquerie. J'ai fait une vente d'un véhicule et en fait, c'était une bande organisée qui était basée sur Lyon, qui est venue récupérer le véhicule avec un faux chèque de banque et donc personne ne le savait. Il y avait vraiment tout qui était bien calé chez eux, en tout cas. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé avec un faux chèque de banque et j'avais plus la voiture qui avait une valeur à peu près de 50 000 euros.
Okay.
Et vu que moi, je vendais ce véhicule parce que je fermais mon entreprise à ce moment-là, je me suis retrouvé en difficulté, tout simplement.
Donc, vous vous êtes retrouvé tout d'un coup avec effectivement cet argent qui devait rentrer, qui n'est pas rentré, la voiture qui n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Combien de temps vous mettez avant de réaliser qu'il va falloir éventuellement avoir recours à carrément des dossiers pour être accompagné?
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, le jour où j'ai été victime de cette escroquerie-là, en fait, cette bande organisée était sous écoute par la police judiciaire. Et donc, le jour où j'ai vendu le véhicule, ils ont intervenu, sauf qu'ils m'ont dit que l'affaire allait se résoudre parce que j'allais avoir un remboursement, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et au bout de quelques mois, vous avez un crédit à payer. Et vu que vous avez plus de rentrée d'argent, on va dire, vous vous retrouvez à trouver un nouveau job, sauf que vous avez des prélèvements sur votre nouveau salaire. Et des prélèvements qui étaient exorbitants, donc c'était vraiment très 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 compliqué. Donc j'étais obligé à ce moment-là. Ouais,
demandé un dossier de surendettement. Est-ce que aujourd'hui, David, vous vous en êtes sorti?
En fait, je m'en suis sorti au bout de 5 ans, donc okay. Sans problème au niveau des échéances que j'avais à régler, j'ai pas eu de soucis. Et au bout de 5 ans, en fait, on a cette levée d'interdit bancaire. Donc à ce moment-là, j'ai pu continuer entre guillemets ma vie. Et voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, il me reste encore à peu près quelques mois à payer, parce que c'est fréquent.
Mais vous voyez le bout du tunnel.
Ouais, mais j'ai payé le véhicule. En fait, je suis encore en train de payer le véhicule que je n'ai plus et j'ai aucun recours. J'ai rien du tout. Voilà.
C'est terrible. Merci pour votre témoignage, David. Quand on entend effectivement le témoignage de David, Maxime Chipoy, on voit que il y a effectivement ces arnaques, ces accidents de parcours, mais il y a aussi un surendettement qui vient de manière plus sournoise parce que tout simplement les gens ne s'en sortent pas. Comment on fait pour vivre avec un SMIC aujourd'hui?
Alors effectivement, pour beaucoup de Français, notamment ceux qui habitent en ville, vivre avec un SMIC, c'est mission impossible. C'est ce que disait le PDG de Michelin il y a quelques mois. Un SMIC, ça suffit clairement pas. Et quand on regarde, quand on fait le point dans les dossiers de surendettement, dans les commissions de surendettement, où il y a des spécialistes de ces questions-là, qu'on enlève toutes les dépenses qui sont pas forcément légitimes, la moitié des dossiers n'ont aucune capacité de remboursement. Même en mettant le budget à zéro, il y a aucune capacité de remboursement.
Concrètement, quand on est dans un dossier de surendettement, quand on est accompagné là-dessus, on a des dépenses limitées, tout est sous contrôle.
Alors effectivement, tout est sous contrôle, on vous enlève votre chéquier, vous n'avez plus droit au crédit, vos dépenses sont contrôlées par les commissions de surendettement et sur une durée qui est très longue. Monsieur parlait de 5 ans, c'est à peu près ce qui arrive. Donc c'est pas le début de la fête, c'est pas facile, mais
c'est aussi ce qui permet de s'en sortir.
C'est le seul moyen d'apurer les dettes, et puis dans ces commissions de surendettement, dans certains cas, vous avez un effacement d'une partie ou de toutes les dettes.
Le problème, c'est que dans le même temps, on le voit, les frais bancaires continue d'augmenter, il devrait augmenter de 3% cette année. Est-ce que la spirale, elle est alimentée aussi par les agios, les frais bancaires? Est-ce que les banques jouent leur rôle pour alerter ou est-ce qu'au contraire, ils mettent la tête sous l'eau?
Alors, les frais bancaires contribuent, comme toutes les hausses de dépenses, au problème, avec cet aspect particulier qui est que, dans le cas de la banque, quand on est à découvert, on paye plus cher que quand tout va bien. Donc effectivement, quand on a les commissions d'intervention, les frais de rejet de chèque, etc., ça améliore pas la situation. Alors, s'il faut être un peu positif, la situation s'est quand même améliorée puisqu'il y a eu des plafonnements un peu dans tous les sens sur ces frais bancaires-là. Donc maintenant, quand le banquier vous détecte comme étant quelqu'un de fragile, vos frais d'incidence sont extrêmement limités. C'est des moments 20 ou 30 euros par mois. Mais évidemment, c'est quelque chose qui s'ajoute à des budgets qui sont extrêmement fragiles.
Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent?
Alors le premier conseil, c'est que dès qu'on sent qu'on est très limite, que notre découvert commence à traîner, il faut aller voir son banquier. Il faut vraiment pas avoir peur de son banquier et faire le point sur sa situation, parce que la pire des situations, et malheureusement c'est ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens font un peu l'autruche et qu'ils attendent le plus longtemps possible avant de régler la situation, sauf que la situation se dégrade en attendant et c'est plus difficile à régler.
Donc n'attendez pas et réagissez. Merci Maxime Chipoy, président donc de Moneyvox, qui est ce site d'information spécialisé sur les questions d'argent. Et merci à David pour son témoignage. Il est 7h50. Cécile Duflo est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour
Cécile,
Apolline.
Vous êtes la voix de gauche sur RMC hier. Vous avez écouté, à la même place, c'était la voix de droite, puisqu'on alterne sur RMC. C'était Louis Sarkozy qui réagissait
à certains magasins commerce KFC qui vont passer au 100% halal. Il parlait d'un signe d'islamisation. Ça vous a fait bondir?
Oui, parce que j'en ai un peu ras-le-bol des vraies fausses paniques autour de l'islam. La République n'est pas menacée par le poulet frit. Mais la diététique et la gastronomie, oui.
La voix de gauche, dans un instant, sur RMC. Il est 7h50, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec un musée Star Wars qui va ouvrir ses portes à Los Angeles.
Attendez, c'est bien plus qu'un musée Star Wars, Apolline. C'est le musée George Lucas des arts narratifs qui va ouvrir au mois de septembre prochain. Le créateur de la saga qui a pensé ce musée dans les moindres détails. Un parc de 11 hectares, un bâtiment futuriste gigantesque qui ressemble à un vaisseau spatial qui aurait atterri en plein Los Angeles. Le musée en lui-même sera une œuvre d'art. Toit végétalisé, cascade pour rafraîchir l'air californien, alimentation entièrement solaire. George Lucas parle d'un musée spécial. À l'intérieur, salle de ciné, boutique, restaurant, plus de 15 000 œuvres de sa collection. Peintures de Norman Rockwell, toiles de Frida Kahlo, planches de comics Marvel et bien sûr des pièces Star Wars, un modèle géant de l'étoile de la mort, des croquis inédits de Yoda et C-3PO, l'armure dorée de ce dernier même. Rendez-vous donc le 22 septembre prochain, bon, à Los Angeles.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h52 sur RMC et RMC Story. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la voix de gauche sur RMC et ce matin vous vouliez revenir sur ces 24 restaurants KFC qui vont passer au 100% halal mercredi prochain. Hier, la voix de droite, Louis Sarkozy, y a consacré sa chronique et vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui, ce qui est assez logique finalement.
C'est pas seulement logique, c'est que franchement il y a un calendrier des paniques instrumentalisées liées à l'islam qui devient vraiment lourdingue. Donc en automne c'est le voile dans le sport, au printemps c'est les prières de rue, en été c'est le burkini. Et alors la viande halal, c'est un peu comme les années bissextiles, ça revient de temps en temps. Et bingo, cette fois c'est au tour de KFC qui a donc annoncé que 24 de ses fast-food sur 404. Hein. Donc Louis-Nicolas Sarkozy, joli.
Je crois qu'il s'appelle Louis, mais son père s'appelle Nicolas.
Et tous les autres pourront continuer à aller manger du mauvais poulet élevé en batterie partout ailleurs et même chez McDo.
Parce qu'effectivement, vous le rappelez, d'abord c'est pas la première fois qu'on reparle du halal dans les restaurants et puis ce sera une partie des restaurants KFC.
Alors, en fait, c'est une histoire qui date la première fois, j'ai cherché, parce que je m'en souvenais, de 2009, il y a 16 ans. 16 ans. Et c'était Quick, un patron de Toulouse, d'un restaurant de Toulouse qui voyait son restaurant se vider et à côté, un restaurant de hamburger halal qui s'était installé. Donc, il a décidé de changer son offre comme ça. Hyper bien marché. Eh bien, Quick a développé ça dans d'autres restaurants. Et à l'époque, des hauts cris, le même sketch sur la patrie en danger et menace de dépôt de plainte. Dépôt de plainte sans effet, évidemment, parce que évidemment que la discrimination est illégale en France. Ce qui serait discriminant, c'est interdire à des gens de rentrer dans des restaurants. Mais on peut faire ce qu'on veut. Ça s'appelle la liberté du commerce. Vous pouvez même ouvrir un restaurant d'escargots et d'épinards. Si vous avez des clients, allez-y.
Il n'y a pas pour vous de risque de communautarisme?
Eh bien non, parce qu'en fait, ça s'appelle même pas la diversité. Hein. C'est évidemment pas du communautarisme, c'est juste... du commerce. En fait, c'est trouver des clients
c'est l'offre
pour
et
avoir
la demande,
des commerçants. C'est l'offre et la demande. Et on a tout à fait le droit de manger ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le pionnier Quick, qui a une stratégie marketing, n'a pas du tout une stratégie communautariste. Au contraire, et là c'est intéressant, il a une stratégie très ancrée sur la France, sur l'histoire. Il a sorti des burgers bleu, blanc, rouge au moment des Jeux Olympiques et récemment des burgers à la vache qui rit et au boursin. Et le boursin, c'est une histoire rigolote, c'est vraiment une histoire française. C'est le nom du fromager qui a créé ce fromage en 1957. Et tout le monde se souvient, dès qu'on est un tout petit peu plus âgé, du slogan publicitaire historique, du pain, du vin, du boursin.
Donc si ça, c'est pas français. La France, c'est éventuellement une viande halal avec du boursin dans un hamburger.
Un burger halal au boursin. Bah oui, c'est ça la France. Mais d'ailleurs, ce qui devrait nous mobiliser, c'est que le burger, c'est pas complètement la France. Les hauts cris à l'époque, c'était l'américanisation. Parce que le vrai sujet, c'est la qualité de l'alimentation. C'est la lutte contre les graisses industrielles, contre le trop sucré, pour le fait maison, pour les cuisiniers, parce que ça met à la fois nos artisans en danger, mais aussi la santé. Et ça, c'est un vrai c'est un vrai sujet important. Il faut absolument qu'on s'attache à la qualité de l'alimentation et que chacun mange ce qu'il veut.
Et je vous recommande d'ailleurs la lecture de notre journal confrère Le Parisien, qui ce matin titre « La France, royaume de la malbouffe ». Et effectivement, c'est aussi ce que vous dénoncez ce matin. Merci
et
beaucoup.
Là, pour le coup, la patrie serait en danger.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. 7h56, dans un instant, la météo et le journal de 8h, un conseil de défense d'urgence convoqué donc par l'Elysée. L'Iran et le Groenland sont au cœur des discussions. Que peut faire la France? Réponse dès le début du journal. La météo, beaucoup de pluie dans le nord-ouest, mais la douceur au rendez-vous. Et juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. 96% des petits patrons se disent épuisés, inquiets, découragés.
C'est sans doute le plus gros voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de l'économie française.
Et vous nous le dites dans un instant, 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.